La plupart des grandes étendues boisées se sont resserrées. Les forêts qui subsistent sont à l'état de coupe réglée et n'ont point de beauté durable. Les besoins deviennent de plus en plus pressants. L'arbre, à peine dans son âge adulte, est abattu sans respect et sans regret. Que de colosses admirables les personnes de mon âge ont vu tomber.
Fontainebleau, forêt en danger. Par Pierre Lorémy et François Test. Premier épisode, menace sur les arbres centenaires.
Ce que j'explique souvent, c'est que c'est une forêt plantée. Donc au Moyen-Âge, on a à peu près 7000 hectares de terrain boisé. Le reste est réservé au pâturage. On a plus de 15 000 animaux, vaches, porcs et moutons qui font du pâturage. Et donc il y a des métiers pour ça, des gens qui ont des métiers, ceux qui ramassent du bois mort, etc. Et donc petit à petit, les rois, à partir de Robert le Pieux, et puis après les grands rois, François Ier et les autres, vont suivre, vont construire en même temps le château, et donc vont planter, vont demander à ce qu'on plante des beaux chênes, et qui après serviront pour la marine, et petit à petit, on en fait une vraie forêt. Donc au départ, on ne peut pas dire que ce soit une vraie forêt. Il y a essentiellement des landes, des platières de grès, des déserts de chaos rocheux, etc. Et au fur et à mesure, on en fait une forêt plantée.
En cette première partie du 19e siècle, de jeunes artistes vont se mobiliser face à un projet qui menace la forêt de Fontainebleau et les grands chênes majestueux qu'ils admirent. La romancière George Sand alertait déjà des dangers de la déforestation avant de faire de la défense de la nature le grand combat de sa vie. À la pointe de cette lutte pour la forêt de Fontainebleau, contre les coupes rases et les appétits financiers des différents pouvoirs en place, on retrouve un groupe de jeunes peintres installé juste à côté, en bordure de forêt, dans le village de Barbizon. Ils sont à l'origine de la création des premiers espaces protégés au monde, les réserves artistiques, que l'on appelle aujourd'hui les réserves biologiques intégrales. André Corvol, historienne.
Au début du 19e siècle, l'administration des eaux et forêts dépend du ministère des Finances. Et donc, il s'agit que les forêts rapportent au budget. D'autant plus que 1815, c'est la défaite définitive de Napoléon. On a une énorme indemnité à payer. Et comme ça ne suffit pas, je dirais, le pays est quand même dévasté par les troupes d'occupation. Donc, effectivement, il faut que les forêts apportent leur obole aux finances publiques. On procède donc à des coupes extraordinaires, ce que l'on fait toujours à l'issue de guerres pour pouvoir renflouer le trésor public. Et puis également, on s'occupe des espaces forestiers qui sont insuffisamment peuplés. Et donc, on commence à les reboiser. Et on les reboise avec l'essence qui coûte le moins cher, parce qu'il suffit d'épandre des semis, du soleil, de la terre nue, et hop, les pins sylvestres prospèrent gaillardement, et ils vont même envahir les terrains des alentours. Donc c'est une logique économique, il s'agit que les forêts produisent davantage, et par conséquent rapportent davantage.
Alors là, Nicolas Laurent, nous sortons de la maison forestière, c'est comme ça que vous l'appelez.
Du parc de la faisanderie de Fontainebleau.
Et vous nous emmenez où ?
On va se diriger dans la réserve biologique intégrale du Gros Fouteau et des Hauteurs de la Solle, dans une parcelle forestière qui est la numéro 263 de la forêt domaniale de Fontainebleau. On sera en 10 minutes à peu près. Voilà, on est en bord de ville ici, et en l'espace de 10 minutes seulement, on va se retrouver en cœur de forêt, dans un espace laissé en libre évolution.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer la notion de libre...
La libre évolution. Finalement, c'est la dynamique naturelle d'une forêt. Aujourd'hui, dans certains espaces, ça représente 1060 hectares sur le massif forestier de Fontainebleau, 1350 hectares en Île-de-France. Ces espaces-là sont laissés en libre évolution, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de gestion forestière. On ne vient pas abattre d'arbres, on ne vient pas planter, on ne vient pas régénérer, on ne fait aucun travaux dans ces parcelles-là.
Patrick Schneider, vous êtes pianiste, auteur de livres, créateur de spectacles musicaux, entre autres choses, dont « Desjardins et des hommes », où vous racontez la mobilisation de ces artistes au XIXe siècle pour la forêt de Fontainebleau. Tout commence au début des années 1830.
Ouais. Hein.
Louis-Philippe est au pouvoir. Visiblement, des coupes rases sont nécessaires pour faire des ressources pour l'État. Est-ce que vous pouvez rappeler cette partie?
Oui, alors d'abord, Louis-Philippe, effectivement, bon, c'est le roi des Français. Pas roi de France, roi des Français. Il se veut être un roi bourgeois, près du peuple. En même temps, c'est lui qui a finalement introduit le libéralisme en France. Donc c'est quelqu'un qui a en tête de ce qu'on appellerait maintenant valoriser les espaces. Et comme il dispose dans sa liste civile des palais et des forêts attenantes aux palais, et que Fontainebleau est pas loin, c'est un sujet intéressant pour lui.
Là, nous sommes sur la route forestière de la Reine. On commence déjà à voir pas mal de branches tombées sur la route. Il n'y a pas énormément de passages par ici. Déjà en voiture, c'est pas très praticable.
Alors c'est strictement interdit à tous les véhicules à moteur, excepté effectivement les personnes ayant droit, c'est-à-dire notamment les véhicules de l'ONF. On est sur un axe qui aujourd'hui est ouvert au public, donc il est sécurisé. Mais effectivement, les passages se font rares, puisque nous sommes aux abords de cette réserve biologique intégrale maintenant. Donc sur notre gauche, on voit l'une des plus vieilles parcelles classées en libre évolution dans le massif de Fontainebleau.
Avec même des nappes d'eau.
Et effectivement, on observe des mares forestières, beaucoup de bois morts, on le voit, des branches mortes sur la route, des gros bois morts également de part et d'autre. Et là, on voit la dynamique naturelle de la forêt qui est à l'œuvre.
Et des superbes arbres, avec des ramures énormes. Ah bon, si on s'arrête là, c'est parfait. Bon, on va sortir, on va aller dehors, on va aller voir ça directement sur place.
Allons-y.
Cette forêt, elle n'est pas du tout aussi boisée qu'on la voit maintenant. Au contraire, elle est même majoritairement désertique. Et c'est ça d'ailleurs qui intéresse nos amis les romantiques, à cette génération de 1830, Hugo, Chopin, Liszt, tout le monde, Delacroix, voilà, liberté guidant le peuple, etc. Ça faisait rêver les romantiques, parce qu'à Fontainebleau, effectivement, on s'y attend pas. C'est pas du tout un paysage francilien habituel. Au lieu d'être une plaine, eh bien, c'est au contraire des genres de ravins, certes modestes, mais tout de même spectaculaire, des grès, une mer était là anciennement, un sable d'une qualité extraordinaire qui est toujours exploité, je crois que c'est un des plus purs au monde avec 96 ou 97% de silice. Bon, c'est pas n'importe quoi la forêt de Fontainebleau, une blancheur éclatante, et puis donc sur ces déserts finalement, que c'était majoritairement à l'époque, il y avait aussi de la bruyère qui poussait, etc. Donc quand Louis-Philippe, qui n'est pas du tout un rêveur, contrairement à nos avis romantiques, voit tout ça, il se dit, ben tout ça c'est bien joli peut-être, mais ça rapporte rien quoi. Donc il dit il faut valoriser, donc ni une ni deux, il fait abattre des chênes qui étaient pluricentenaires, notamment au Bas Bréau. C'est cette allée qui donne l'allée aux vaches directement à la sortie du village de Barbizon. Et beaucoup de parquets parisiens en fait ont été faits dans ces chênes multicentenaires.
Et ce qui est significatif, c'est qu'à propos de la forêt de Fontainebleau,
André Corvol,
les premières mesures de protection qui sont mises en place par différents mouvements qui apparaissent à partir des années 1830, vous n'avez pas de naturalistes parmi eux. Vous avez des artistes et des écrivains. C'est-à-dire des gens qui raisonnent en fonction de l'esthétique. Et ce qu'ils demandent, c'est que justement les paysages qu'ils croient traditionnels dans la forêt de Fontainebleau soient maintenus, à commencer par les vieux arbres qui constituent les piliers de ces paysages. Et des arbres qui vieillissent bien, c'est-à-dire par des chênes qui sont très longévifs. Et un arbre qui est très vieux, dans l'imagination de l'époque, c'est un arbre qui a ou 500 ou 1000 ans. Autrement dit, il a été le témoin du passé et on doit le garder pour que ce témoin demeure.
Alors, où commencent les fameuses séries artistiques donc les plus anciennes parcelles de la forêt de Fontainebleau telles que l'ont connu les peintres de Barbizon.
Juste en face de nous, on se trouve effectivement devant l'une de ces parcelles qui a été classée en 1861, puis en 1953 en tant que réserve biologique intégrale.
Alors est-ce qu'on peut dire que certains arbres ont connu cette époque du 19e siècle ?
Peut-être le chêne qui se trouve juste ici, ce très gros chêne majestueux avec ses grosses branches. Ce chêne-là, on peut estimer qu'il a au moins 150 ans, sans doute environ. Il a dû connaître un paysage un peu différent. On sait que les chênes de Fontainebleau grandissent lentement, ce qui leur donne une qualité très particulière. Ils grandissent lentement parce qu'ils sont sur un sol très sableux.
Parmi les autres espèces ici, donc on vient de parler des chênes, il y a quoi aussi, des hêtres, des...
Effectivement, les chênes, les hêtres, les charmes, tous ces arbres-là étaient présents il y a 150 ans. Les proportions étaient sans doute un peu différentes. Les chênes, aujourd'hui, tendent à disparaître de ces réserves. Ce sont des arbres qui aiment la lumière. Ils ont été favorisés par les forestiers sous l'action de la gestion forestière. Aujourd'hui, sans gestion, ce sont des arbres qui préfèrent l'ombre, qui se développent. Et on le voit à nos pieds, tous les jeunes arbres, ce sont des hêtres, ce ne sont pas des chênes. Donc demain, cette réserve sera de plus en plus composée de hêtres et de moins en moins de chênes.
Mais on ne voit pas de pins.
On ne voit pas de pins ici. Il y a quelques pins dans d'autres secteurs de ces réserves-là, mais effectivement, on est sur des secteurs plutôt feuillus. La forêt de Fontainebleau est quand même composée pour 40% environ de peuplement de pins.
Dans ce fameux petit village de Barbizon, il y avait une auberge qui était tenue par quelqu'un qui était un peu politisé, qui s'appelait Monsieur Gann, qui était républicain, donc qui portait pas vraiment Louis-Philippe dans son cœur, et qui accueillait là des jeunes. Mais quand je dis jeunes, c'est vraiment jeunes, ils n'ont pas 30 ans, ils ont entre 20 et 25 ans maximum. Et ces jeunes, souvent, d'ailleurs, sont issus de familles citadines, mais un peu comme maintenant, ces jeunes, ils ont du mal à vivre à Paris ou dans les grandes villes, parce que la vie est chère, on a du mal à se loger. Donc, comme beaucoup de jeunes, ils quittent la ville pour mieux vivre à la campagne. Voilà. C'est très très simple, à 60-70 km de Paris. Monsieur Gann les héberge, on peut dire, gratuitement. En échange de ça, il peigne les murs, il peigne les meubles, qui existent toujours. On peut visiter ce musée des peintres de Barbizon à Barbizon. Et tout va bien.
Frédéric Bourdeau, régisseur des collections au musée départemental des peintres de Barbizon, donc qui se situe dans l'ancienne auberge Gann, qui était le lieu où les peintres vivaient au 19e, se retrouvaient, venaient peindre, discuter, dormir, manger. C'est vraiment l'endroit de vie des artistes paysagistes.
Frédéric Bourdeau, ici nous sommes dans la partie qui était l'ancienne épicerie de l'auberge Gann.
Cette salle, donc, qui était, comme vous le dites, l'ancienne épicerie, c'était un lieu extrêmement complexe. C'était d'abord l'entrée de l'auberge. On arrivait directement par la porte qui donne directement sur la rue principale, qui était finalement la seule rue existante au 19e. Il ne faut pas oublier que Barbizon était un village de paysans, de bûcherons. C'était même un hameau qui dépendait de la commune de Chaillé-en-Bière. Et monsieur et madame Gann, qui sont les épiciers, se disent finalement la maison est grande. Ils vont commencer à prendre un pain, deux pains, trois peintres en pension. Et seulement après, à créer véritablement une auberge dans laquelle tous les artistes pendant jusqu'en 1860, donc quasiment tout le 19e siècle, vont venir séjourner, s'installer, passer 3 jours, 6 mois, le temps qu'ils veulent, et revenir s'ils en ont envie.
La nature dans les tableaux précédents, c'est un décor, quoi. C'est une sorte de moquette sur laquelle se déroulent des scènes, et ces scènes, celles qui sont importantes, bien sûr, c'est les humains qui prennent le premier rôle. Et là, les peintres de Barbizon font le contraire, ils donnent à la nature le premier rôle, à tel point que quand ils peignent des humains pour espérer être exposé au salon, parce que si on voulait être exposé au salon, il fallait peindre un humain. Voilà. Donc ils font carrément comme font les gosses, quoi, je veux dire, un tronc, deux bras, deux jambes, mais exprès, quoi. Voilà. C'est pour se moquer d'académisme. Et c'est là qu'apparaît notre fameux Théodore Rousseau, donc un de ces jeunes peintres, qui lui d'ailleurs est d'origine parisienne, fils d'un boucher, et qui a comme idéal de peindre la forêt. Pourquoi ? Parce que en fait, en 1834, il se promenait dans la forêt de Fontainebleau et il a eu une illumination, il faut bien l'appeler comme ça. Il se promène dans la forêt toute la journée comme un fou parce qu'il a la certitude, la sensation que les arbres se parlent entre eux. Et de ce moment d'extase absolue qui dure des heures, il se jure de peindre le langage des arbres. Ce qui normalement est impossible, mais enfin bon, l'art est renommé pour rendre possible l'impossible. Et il veut aussi traduire la musique en quelque sorte des arbres. Et plein de jeunes vont venir avec lui et s'installer là et peindre les arbres au scandale comme des personnages. C'est-à-dire qu'au lieu du portrait, je sais pas, de Louis-Philippe, bah, ils vont peindre un arbre en disant que c'est un portrait d'arbre. C'est-à-dire un arbre non pas vu sous sa forme végétale, décorative, etc., mais vu comme un être vivant qui a le droit de portraiturer comme un humain. Et ça, c'est absolument révolutionnaire.
Tous ces jeunes artistes vont voir dans les différents salons, notamment les peintures de Constable, de Turner, qui sont les premiers paysagistes anglais qui vont venir exposer à Paris. Et puis, ils ont quand même en mémoire aussi les paysagistes hollandais qui sont un petit peu plus tôt. Et tout ça, tout doucement, va les amener à se dire, mais finalement, cette peinture de paysage, elle est assez exceptionnelle. Théodore Rousseau, par exemple, a de très jolis écrits, en fait, sur le sujet, où tout d'un coup, l'arbre devient plus beau qu'un homme ou plus extraordinaire, en fait, qu'un humain. Ils vont aussi, à part le romantisme, et qu'on va retrouver aussi après dans la littérature, ils vont aussi, du coup, personnaliser le beau, ce qu'ils appellent le beau étant notamment les grands arbres et la forêt, notamment les chênes.
Patrick Schaeder, pourquoi les arbres centenaires fascinaient ces jeunes artistes ?
Pour eux, ce sont des monuments historiques. Donc il faut tout replacer dans un contexte. Donc là, il faut évidemment parler de Victor Hugo. C'est une personnalité majeure sous tout le 19e siècle, puisque en 1831, il écrit Notre-Dame de Paris. Il dit que non seulement il espère que les gens vont passer un bon moment en lisant cette saga, mais aussi que peut-être ça va rendre les Français plus soucieux de leur patrimoine. Et en 1832, donc, il écrit un article en disant « Le roman vous a plu, et ben maintenant il faut faire une loi pour défendre les monuments historiques. » Donc défendre l'architecture médiévale et dans l'esprit des romantiques de Théodore Rousseau mais aussi de Victor Hugo hein, parce qu'il va s'exprimer sur les arbres un peu plus tard, un arbre ancien c'est comme un pilier médiéval, c'est-à-dire ça raconte notre histoire et en plus c'est un être vivant, donc ça fait un doublé.
Ce qui choque, ce n'est pas la lande, ce n'est même pas la coupe rase. Ce que l'on ne veut pas, c'est que on coupe de vieux arbres. Dans ce début du 19e siècle, on voit que les pins que l'on avait semés sous le règne de Louis XVI, il faut penser que c'est le botaniste médecin de Louis XVI, Le Monnier, qui avait introduit les pins russes, c'est-à-dire les pins de Riga. Au début du 19e siècle, ces arbres ont à ce moment-là 20 ou 30 ans. On les voit dans le paysage, alors que jusque-là, on ne les voyait pas. D'où l'enchaînement maléfique qui se fait dans les cervelles des romantiques du début du 19e siècle. On est en train de remplacer nos chers vieux chênes par ces affreux pins russes. Et j'insiste sur russe, parce que ce sont des pins qui rappellent l'occupation des Alliés après la défaite de Napoléon. Donc, dans les défenseurs de la forêt de Fontainebleau, vous avez des républicains, des bonapartistes qui sont déçus par ce qui s'est passé en 1815, disons un ensemble de personnalités qu'aujourd'hui on qualifierait de centre-gauche.
Patrick Schaeder, pourquoi ces artistes sont devenus des activistes ? Qu'est-ce qui les a révoltés essentiellement ?
Alors si ces jeunes artistes qu'entre 20 et 25 ans deviennent des activistes, c'est parce qu'ils ne comprennent pas du tout la démarche de Louis-Philippe. Un arbre, ça ne crie pas, on peut le couper, on peut le remplacer, voilà, donc c'est ça. Et les jeunes ne comprennent pas ça parce qu'ils sont d'une vision effectivement poétique des choses. Abattre des êtres vivants, pour eux, c'est insupportable. Et tout comme les faucheurs de maïs OGM actuels, ils vont aller contre la loi de Louis-Philippe, ils vont aller arracher les pieds de pin qu'ils plantent en série toute droite, triste, voilà. Fini les grands déserts, fini la bruyère, fini les genévriers. Maintenant, on a des trucs comme ça en rond d'oignon et c'est anti-artistique à souhait. Donc, ils vont rentrer en résistance. Et donc, il y a une phrase qui court à la fameuse auberge vegan qui les accueille et qui les protège. C'est pain pour pain. C'est-à-dire, si tu arrives à l'auberge avec un pied de pain, on te donnera du pain en échange. Bon, c'est un peu une blague. Mais c'est vraiment l'esprit et ça s'est vraiment passé comme ça. Et je pense que ça impressionne jusque dans les rangs de la cour, parce que un des fils de Louis-Philippe, justement, va leur acheter des tableaux, etc. Et puis, et tout à fait des gens du parti de Louis-Philippe qui commencent à écrire des articles dans les journaux en disant « Sire, écoutez les jeunes artistes, ils ne demandent pas grand-chose, simplement qu'on respecte les arts. » Bon, et il va céder. Et il va renoncer, pendant un certain temps, à battre les chaînes du Babréo. Donc ça, c'est en 1839. Sachant que les peintres se sont installés entre 1830 et 1836, surtout à partir de 1836, ils sont très actifs. On peut dire qu'en 3 ans, grosso modo, ils ont obtenu une première victoire.
Les jeunes peintres de Barbizon, au XIXe siècle, adorait peindre des portraits, ce qu'il appelait des portraits d'arbres. Nous sommes ici devant le chêne Lantara, un superbe vieux chêne qui a sans doute connu cette époque-là.
Il a probablement connu cette époque-là. On le voit bien sous nos yeux, c'est un vieux chêne avec de nombreuses cavités qui ont été laissées par des branches qui sont tombées finalement. Ces cavités aujourd'hui, elles abritent peut-être des animaux. On le voit, il est plein de fentes, il a été piqué par des insectes. Et puis on voit ces grosses branches, ces charpentières qui, elles, sont de plus en plus en mauvais état. C'est un arbre vieillissant, c'est un vieil arbre. Donc il les perd progressivement, mais il est toujours vivant. On voit encore toutes ces feuilles vertes devant nous. C'est un arbre aujourd'hui remarquable, il a été classé à ce titre. On voit, il a un point bleu sur son écorce. Il est classé par les Amis de la Forêt de Fontainebleau en lien avec l'Office National des Forêts, souvent parce qu'il présente des caractéristiques particulières, qu'elles soient paysagères ou parce qu'ils ont un âge avancé.
Donc Patrick Schiller, en 1852, Théodore Rousseau est devenu un peintre reconnu, mais les menaces sur la forêt de Fontainebleau continuent.
Oui, parce que ces menaces qu'on avait cru écarter avec ces mesures de semi-protection de Louis-Philippe sont sans cesse remises aux causes, déjà par les changements de régime. Déjà, c'est la première chose. Le 19e siècle, on change de régime tous les 10, 15 ans, 20 ans, c'est énorme, quoi, c'est une éternité. Donc, Louis-Philippe est mis dehors en 1848, une brève république, le président de la République, ça va être... Oui, Napoléon Bonaparte qui va devenir Napoléon III. Donc tout est à rejouer à chaque fois, en fait. Et mais il tombe bien parce que le futur Napoléon III, en fait, a été en exil assez longuement en Angleterre. Et quand il était à Londres, il a beaucoup admiré les parcs justement à l'intérieur de Londres. Et il va proposer donc un plan d'aménagement pour donner suite à ces réclamations des peintres. Il y en a un premier qui lui est proposé en 1853 par un inspecteur qui est resté célèbre à cause de ça, qui s'appelle Stem, qui propose de protéger 624 hectares de forêt. Mais Napoléon III trouve que c'est pas assez ambitieux, il demande encore un autre plan. Et c'est là qu'en 1861, donc tout ce travail de recherche aboutit à un décret impérial en août 1861 qui va sanctuariser 1097 hectares de forêt. Et à cette époque-là, la forêt compte 16 972 hectares. Donc c'est un peu moins d'un dixième, voilà. Mais c'est tout de même quelque chose. Et ça, c'est une première mondiale. Ça s'est jamais fait auparavant. Première mondiale qui restera pas sans suite. 1861, sachant que le parc de Yellowstone aux États-Unis, premier parc naturel national aux États-Unis, serait créé en 1872, donc 11 ans après. Et ça aussi, c'est intéressant parce que, au fond, les Américains étaient parfaitement au courant de ce qui se passait à Fontainebleau. Ils étaient parmi les premiers acheteurs, justement, des peintres de Barbizon. Ils les ont sauvés de la misère. Donc, il y avait un intérêt pour le paysage outre-Atlantique qui a permis aussi aux peintres d'avoir cette reconnaissance internationale au fur et à mesure. Donc, c'est très, très lié, en fait. Conservation du paysage, art et des résultats très concrets sur le terrain.
Alors là, nous sommes dans la parcelle des réserves artistiques. Je crois que vous ne l'appelez plus comme ça, réserve biologique intégrale. À quoi elles servent ?
Les réserves artistiques, elles, datent de 1861 avec le classement de Napoléon III. L'objectif premier était la protection du paysage des peintres de Barbizon, notamment mené par Théodore Rousseau, avec cet objectif de conserver le paysage tel qu'il était à l'époque pour s'assurer de pouvoir continuer à le peindre, à le transcrire. Aujourd'hui, réserve biologique intégrale, laissée en libre évolution, finalement le paysage a beaucoup changé depuis environ 150 ans. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de gestion sur ces paysages-là et que la forêt a conquis progressivement tous ces paysages ouverts. Et on le voit ici, elle continue de conquérir avec tous ces jeunes plants de hêtres qui poussent, qu'ils soient tout petits ou à l'échelle de notre taille à nous. Et progressivement, c'est un milieu qui se referme. Il se referme et les chênes, par exemple, que les peintres de Barbizon appréciaient autant et qu'ils pouvaient peindre, bah, ces chênes-là sont en train de disparaître. Et progressivement, les chênes vont perdre du terrain ici, laisser la place à des essences d'arbres qui préfèrent l'ombre, comme on le voit là, effectivement, devant nous, avec tous ces hêtres qui sont en train de s'élancer vers la lumière comme ils le peuvent.
Donc dans ces réserves biologiques intégrales, on voit des arbres couchés avec des champignons, des écorces qui tombent. En quoi c'est important d'avoir ce laboratoire vivant ?
Effectivement, c'est un vrai laboratoire aujourd'hui. C'est un laboratoire puisque seuls les scientifiques et l'Office national des forêts peuvent y pénétrer pour étudier la biodiversité. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de bois morts, bien tout simplement parce qu'on laisse la forêt vieillir et mourir et que les arbres un jour finissent par mourir. Les champignons, les oiseaux, les insectes, autant d'espèces ensuite vont être associées à ce vieux bois. Alors par exemple, sur le massif de Fontainebleau, et en particulier dans ses réserves biologiques intégrales, on a des insectes très rares en France, que ce soit le lucane cerf-volant ou encore le pic-prune. Puisqu'on a des insectes rares, on a également beaucoup d'oiseaux qui viennent pour consommer toute cette variété d'insectes. Et la forêt de Fontainebleau, par exemple, compte les 6 espèces de pics des plaines d'Europe qu'on connaît dans ce massif. Et enfin, c'est aussi une forêt qui abrite beaucoup d'espèces de chauves-souris, par exemple, puisqu'on compte 17 des 20 espèces de chauves-souris qu'on a en région Île-de-France. Donc c'est un laboratoire à ciel ouvert, certes, il nous permet d'étudier la biodiversité, mais aussi comprendre la dynamique naturelle de l'évolution de la forêt à l'aune du dérèglement climatique, tout simplement, puisque je vous parle du hêtre qui est en train de conquérir la forêt, et on le voit sous nos yeux. Pour autant, le hêtre est très fragile face au dérèglement climatique, face au manque d'eau, aux sécheresses. Donc, quid de l'évolution du hêtre demain sur ces parcelles-là ? Est-ce qu'il va réussir à se maintenir ou est-ce que face à des températures plus importantes et une sécheresse excessive, le hêtre va disparaître au profit d'autres choses ? Mais qu'est-ce que ce sera ? C'est l'avenir qui nous le dira et c'est là que c'est intéressant d'avoir des laboratoires de ce type-là pour suivre cette évolution naturelle et comprendre comment la forêt peut s'adapter seule au dérèglement climatique.
C'était Fontainebleau, forêt en danger. Premier épisode, menace sur les arbres centenaires. Merci à André Corvol, historienne, Patrick Scheder, artiste et historien, Nicolas Laurent, responsable ONF Île-de-France Est, Frédéric Bourdeau, régisseuse du musée des peintres de Barbizon, et Pascal Villebeuf, du collectif Sauver la forêt de Fontainebleau. Lecture des textes de Georges Sand, Garance Clavel. Prise de son à Paris, Florent Bujon et Ludovic Auger. Attaché de production, Sylvia Fabre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Pierre Lorémy et François Teste. À suivre, le second épisode, le dernier combat de Georges Sand.